Vous êtes sur RTL.
Toyota.fr. RTL Matin.
Yves Calvi.
Très bonne journée, merci à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le ministre de la Culture, Franck Riester.
Bonjour Franck Riester.
Bonjour Alba Ventura.
Alors avant toute chose, c'est au ministre que je voudrais m'adresser, pas seulement au ministre de la Culture. 38 400 voyageurs de la SNCF sont restés à quai samedi. Ce n'était pas une grève. De nombreux cheminots ont exercé ce qu'on appelle leur droit de retrait. Ils ont protesté contre l'absence de sécurité à la suite d'un accident entre un TER et un convoi exceptionnel. Ils estiment que le conducteur était laissé tout seul. Il y a eu 11 blessés. Côté trafic, c'est encore un peu perturbé, surtout sur les TER. Comment réagit le ministre et l'ancien maire de banlieue de Coulommiers en Seine-et-Marne? C'est quoi? C'est une prise d'otage ou, comme le dit le Premier ministre, une grève sauvage?
C'est un détournement du droit syndical. Le droit syndical est important, il y en a de nombreux. Il y a le droit de grève, il y a le droit de retrait. Le droit de retrait, c'est un droit individuel, dans le cas d'une mise en danger, par exemple. Là, on voit bien qu'a été organisé d'une façon collective ce droit de retrait. Donc c'est manifestement un détournement. Pourquoi il y a une loi qui a été votée en 2007 pour permettre d'organiser bien le droit de grève, qui est un droit constitutionnel? C'est pour que les perturbations sur le trafic, donc pour la vie des usagers, soient la plus limitée possible. Que des gens expriment un mécontentement dans une entreprise, c'est tout à fait légitime. Que ça perturbe un service public, ça ne l'est pas.
Donc il faut des sanctions.
Donc quand on détourne la loi qui a été prévue pour justement ne pas perturber le trafic, avec des conséquences là graves pour la vie de nos compatriotes, plus de 3 millions de personnes ont été perturbées sur une journée par ce détournement du droit de grève. Et donc il faut arriver à trouver les fils du dialogue, à régler un certain nombre de problèmes pertinents, enfin un problème important qui ont été soulevés par les salariés de la SNCF en matière de sécurité, mais pour autant ne pas perturber la vie de nos compatriotes qui n'ont pas besoin de ça.
Sanctions, vous ne voulez pas répondre donc?
Écoutez, on va voir ce que la SNCF va décider, mais en tout état de cause, on ne doit pas maintenir un dispositif qui serait un dispositif de détournement du droit de grève.
Franck Riester, c'est vous qui avez préparé donc le nouveau projet de loi sur l'audiovisuel qui sera présenté fin novembre en Conseil des ministres. On veut savoir ce qui va changer concrètement pour le téléspectateur. D'abord, je vais parler de la redevance télé. Est-ce qu'elle est maintenue, cette redevance? Je sais que le ministre du budget, Gérald Darmanin, veut la supprimer. Et vous?
Non, mais il y a eu un débat au sein du gouvernement, mais l'exécutif, le président de la République et le Premier ministre ont tranché. On va maintenir une fiscalité ciblée pour l'audiovisuel public, la redevance, qu'on appelle la contribution à l'audiovisuel public. L'année prochaine, elle va baisser d'un euro parce que la trajectoire financière qui est pluriannuelle pour l'audiovisuel public sera largement financée par la contribution à l'audiovisuel public et même au-delà, et c'est pour ça que cet au-delà va être restitué aux Français avec cette baisse de 1 euro. Pour l'avenir, parce que vous savez que cette contribution à l'audiovisuel public est adossée à la taxe d'habitation, étant donné que la taxe d'habitation va disparaître en 2022, nous aurons une fiscalité spécifique dédiée à l'audiovisuel public qui lui permet d'avoir un financement pérenne et indépendant et qui permette l'indépendance de l'audiovisuel public sera définie et mis en œuvre à partir de la suppression de la taxe d'habitation.
Mais on recevra
est-ce que ça sera adossé à l'impôt sur le revenu ou sur une autre taxe? Nous ne le savons pas encore, mais on maintient une fiscalité spécifique pour l'audiovisuel public parce que nous avons toujours besoin d'audiovisuel public, je dirais même encore davantage même qu'avant, en matière d'offres culturelles, en matière d'offres de proximité, en matière d'éducation, en matière d'information. On a besoin d'un audiovisuel public fort, c'est pour ça qu'il faut lui en donner les moyens.
Autre question, est-ce qu'il va y avoir plus de cinéma à la télévision? On sait qu'avec le développement des plateformes comme Netflix, Amazon, bientôt Salto, on a accès à du cinéma quand on veut. Est-ce que les chaînes vont pouvoir diffuser des films les mercredis, les vendredis, les samedis, jour en général dit interdit aux films?
Oui, il avait été mis en place une réglementation qui interdisait effectivement le cinéma ces soirs-là ou ces jours-là. Ça sera fini à partir de la mise en œuvre de la loi, de l'application de la loi, parce qu'on veut permettre à tous nos compatriotes, à la télé gratuite, de pouvoir avoir accès au cinéma quand ils le veulent, quand il sera programmé, ce cinéma, par les chaînes.
Et tous les jours, s'ils le souhaitent ?
Il y a un certain nombre de réglementations qui sont devenues obsolètes avec l'arrivée d'acteurs de l'Internet qui proposent ces services, quelle que soit l'heure ou le jour. Et donc, nous devons adapter notre réglementation pour alléger un certain nombre de contraintes des chaînes traditionnelles, de chaînes de télévision traditionnelles, pour rééquilibrer entre acteurs nouveaux et acteurs historiques. Et donner la possibilité que nos compatriotes bénéficient d'un service plus étendu, avec une diversité de l'offre renforcée.
Alors, on en vient maintenant à la publicité sur les chaînes de télé. Est-ce qu'il est acté, monsieur le ministre, qu'à partir du 1er janvier, les chaînes de télé privées vont pouvoir faire une troisième coupure de pub ?
Alors, l'idée est de donner la possibilité que les chaînes de télévision puissent augmenter leurs ressources de publicité sans augmenter le volume de publicité à l'écran. Et pour ce faire, il faut alléger un certain nombre de contraintes qui, jusqu'à aujourd'hui, empêchaient les chaînes d'optimiser la publicité sur leur antenne. C'est vrai avec la troisième coupure, mais qui ne sera possible qu'à partir, pour des films de plus de 2 heures. Et deuxièmement, en utilisant ce qu'on appelle la publicité segmentée, adressée, comme le fait aujourd'hui Internet, en donnant la possibilité sur une zone particulière du territoire d'avoir une publicité spécifique, ou en fonction du profil marketing de tel ou tel individu, de lui apporter une publicité spécifique ciblée, comme le fait Internet.
Et alors, on nous parle aussi du retour de la pub sur le service public après 20h, sur les retransmissions sportives ?
Non, c'est absolument pas dans la loi. Nous voulons maintenir l'équilibre qui a été obtenu aujourd'hui en matière de publicité dans l'audiovisuel public, tant dans la radio qu'à la télévision. Donc nous ne voulons pas ouvrir la publicité après 20h à la télévision publique. Donc, simplement, pour le sport, il y a des dispositifs dits de parrainage, par exemple, qui permettent de valoriser le sport à la télé après 20h sur les chaînes publiques, sans de la publicité. On ne veut pas rentrer dans la publicité. Il y a, en revanche, dans la loi, quelque chose qui va être demain possible, c'est d'avoir ce qu'on appelle les écrans partagés, pour permettre à nos compatriotes qui ne veulent pas perdre un bout du Tour de France, par exemple, de pouvoir avoir une publicité qui vient s'incruster dans l'écran.
Une petite lucarne,
et qui évite de couper la retransmission de tel ou tel événement sportif qui ne supporte pas, en termes de tension, d'être coupé. Mais bien évidemment, tout ça se fera en accord entre les chaînes de télévision et les fédérations sportives, pour pas que ça soit ensuite une nuisance pour le téléspectateur ou l'auditeur.
Franck Riester, c'est jeudi que Google devrait mettre sa menace à exécution, c'est-à-dire ne pas rémunérer la presse française alors que Google utilise les contenus de la presse française, et ce en dépit d'une loi qui l'y oblige. C'est une transcription d'une directive européenne. Google s'assoit dessus complètement.
Oui, et c'est inacceptable.
Et pourtant, vous êtes allé à New York montrer vos muscles récemment chez Google.
C'est inacceptable. Nous l'avons dit à Google quand ils sont venus en France. Je me suis rendu à New York pour les rencontrer. La loi européenne doit être appliquée. Nous avons évidemment voté une loi européenne, une directive pour veiller à partager la valeur entre les éditeurs de presse, les journalistes et les plateformes de l'Internet. Cette loi doit être appliquée.
Qu'est-ce que vous allez faire s'il ne l'applique pas ?
Eh bien, nous allons travailler avec les autorités européennes et françaises pour voir quelles sont les réponses juridiques que nous pouvons apporter, voire judiciaires. Ça passera peut-être notamment par une réflexion sur l'abus de position dominante. Donc ça veut dire que ce sont toutes les règles liées à la concurrence. Et donc c'est l'autorité de la concurrence en France, c'est la Commission européenne en Europe qui peuvent se mobiliser pour trouver la bonne réponse, pour obliger ces géants de l'Internet à appliquer les lois des pays dans lesquels ils exercent leur activité.
Monsieur le ministre, le musée du Louvre accueille à partir de mercredi la grande exposition qui marque les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. Vous avez eu la chance de la visiter, je crois, hier soir.
Tout à fait.
Donnez-nous envie d'y aller.
Ouais, c'est une exposition extraordinaire. C'est une des plus grandes rétrospectives de l'œuvre de Léonard de Vinci pour l'anniversaire du 500e anniversaire de sa mort. C'est un artiste absolu.
Et il y a un génie.
Un génie. Et il y a des plus belles de ses œuvres qui qui sont présentes. Bien évidemment, la Joconde qui est au Louvre, mais aussi la Belle
la
Féronne.
La Joconde en virtuel, j'ai cru comprendre.
Il y a aussi la Joconde en virtuel, mais il y a aussi la Joconde en réel. la Belle Ferronnière, la Sainte-Anne, le Saint-Jean-Baptiste et l'homme de Vitruve que l'Italie nous a prêté. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de discussions sur les prêts pour les œuvres des Léonards. Dario Franceschini, qui est le ministre de la Culture italien, a su trouver la solution pour nous permettre d'avoir en France, au Louvre, pendant cette exposition, l'homme de Vitruve, qui est un des chefs-d'œuvre de Léonard. C'est magnifique.
La culture, c'est sans doute ce qui permet souvent d'apaiser les tensions entre des pays.
Merci. Oui, c'est un beau symbole de l'amitié franco-italienne. Et puis, Léonard, c'est le beau symbole de l'Europe aussi.
Vous l'appelez Léonard, donc. Merci, Monsieur
Leonardo,
le ministre.
Ou Léonardo, c'est pour les Italiens.
Merci, Monsieur le ministre.
Merci à tous les deux. L'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Et Léonard, eh bien, écoutez, on va le retrouver à 9h dans Laissez-vous tenter, puisque nous reviendrons sur cette exposition exceptionnelle, hein, avec le conservateur du département des peintures du Musée du Louvre et l'incontournable Monique Younès. Bien entendu, Monsieur le ministre, restez avec nous.